Tout le monde a bien dormi? La semaine commence bien? Bon, ce matin, Sarah, je l'ai récupérée au RER de Joinville, elle est arrivée, elle est sans aguets, la crotte dans les yeux, elle avait du mal à marcher, elle a dit, oula, la semaine d'évangélisation, ça va être difficile. Je vois que Laurent Danguevue est un petit peu décoiffé. Je pense que ça a dû ronfler toute la nuit dans les chaumières, là, mais globalement, vous êtes encore frais. On verra ce que vous donnez à la fin de la semaine, une fois qu'on vous aura fait les ateliers intensifs avec Raphaël. Je vous garantis que Raphaël vous a concocté des ateliers spéciaux à base de 2 heures par atelier. Je suis sûr que vous allez apprécier. Hein. Alors, le passage sur lequel on va s'arrêter maintenant et sur lequel on va commencer cette semaine, c'est un passage que vous devriez connaître tous par cœur, en particulier si vous avez fait T40, puisqu'on le récite réunion après réunion. Et on va donc commencer par réciter ensemble ces fameux versets qui est notre mission, notre vision, qui commence par « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va prier. Père Céleste, merci pour ces paroles que tu as données à ton Église. Et merci pour le grand privilège d'être investi et impliqué dans cette mission à laquelle tu nous appelles pour faire de toutes les nations tes disciples, pour ta gloire et pour la joie de tous ceux qui se confient en toi. Père, on va te prier maintenant pour que tu nous aides à avoir aujourd'hui ce fondement solide sur lequel tu veux que nous nous appuyions pour accomplir cette mission et que nous puissions être encouragés par ta parole, stimulés par toi pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles en Jésus-Christ. Nous te prions pour nous cette semaine, te prions pour nous pour que nous te connaissions mieux, pour que nous soyons dans une relation profonde et personnelle avec toi. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la feuille de route missionnaire et j'aimerais donner quelques considérations générales sur la mission avant qu'on rentre dans certains éléments de détail. Et je suis très content de pouvoir faire ça avec mon ami Raphaël cette semaine-là, parce que je crois que j'ai pas grand monde en France avec lesquels je partage les mêmes sentiments et la même vision doctrinale sur la perspective missionnaire. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir faire ça avec lui. Et simplement en termes d'illustration pour commencer, j'aimerais vous laisser vous imaginer ce qui se passe quand vous avez un gouvernement qui est établi par le président de la République française et qui lui donne une feuille de route pour le quinquennat qui va suivre. Si un Premier ministre veut tenir son dans la durée et dans le temps, ce qui était une vertu rare il y a quelques années, mais on a vu qu'il y a certains présidents qui préfèrent maintenir leur Premier ministre maintenant, mais si un Premier ministre veut se maintenir dans la durée, généralement il va chercher à déployer la feuille de route que le président de la République lui aura donnée. Quand Barack Obama est devenu président des États-Unis, la première chose qu'il a fait, c'est de constituer son gouvernement. Et au milieu de ce gouvernement, il a donné cette perspective, cette vision, la direction dans laquelle il voulait aller, et il a donc laissé cette feuille de route. Mais ce que nous sommes en train de lire, et ce que nous avons récité ensemble, c'est ni plus ni moins que la feuille de route que Jésus-Christ a laissée à ses disciples. Si vous étiez un membre du gouvernement de Barack Obama, vous seriez quelqu'un de super important, un des grands de ce monde. Mais vous êtes au bénéfice de la feuille de route que la plus grande personne qui n'ait jamais foulé de ses pieds cette terre vous a lui-même laissée et à laquelle vous a lui-même associé. La feuille de route missionnaire. Et la mission est un aspect central de la révélation prophétique. Christ nous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais en fait ce commandement, c'est pas un commandement nouveau, nous dit l'apôtre Jean, c'est un commandement ancien, il était déjà là avant. Aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est présent partout dans l'Ancien Testament. Et il nous donne une mission nouvelle, celle de faire de toutes les nations des disciples, qui en réalité étaient là depuis le début. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Le plan de Dieu de toute éternité est de glorifier son nom par la manifestation de son Fils souffrant sur la croix pour le pardon des péchés de ceux qui se confient en lui. Ça rend Dieu glorieux et nous déployons cette chose-là jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est un plan parfait que Dieu a de toute éternité et qu'il a manifesté en créant le monde de cette manière-là. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous contemplons une mission qui, dans un certain sens, est annoncée comme nouvelle, puisqu'elle est faite pour être accomplie par des créatures nouvelles. Et j'aimerais dire et vous donner quelques éléments qui pourront nous permettre, avant d'aller plus loin, de pouvoir
en retirer quelques bénéfices pour nous. Quelques considérations donc sur cette feuille de route missionnaire. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il s'agit d'un, non pas d'un commandement, même si c'est un commandement, mais c'est plus qu'un commandement. C'est une passion. Il s'agit d'un commandement divin de manifester et de proclamer la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est plus que cela encore, c'est plus qu'un commandement, c'est une passion. Plusieurs parmi vous ici doivent connaître ma très chère amie Anna Souliman, qui va nous rejoindre certains soirs. Et Anna a un formidable métier. Elle est violoniste. Et son métier consiste à donner des cours de violon à ceux qui s'inscrivent à ces cours, et aussi à aller jouer, à faire des tournées dans des concerts avec des orchestres symphoniques. Récemment, elle était avec un orchestre irakien à Aix-en-Provence. Elle parcourt la France de cette manière-là. Mais ce n'est pas un simple métier. C'est pas une simple tâche à laquelle elle est engagée. C'est une passion qui la dévore et la consume. Est-ce que vous savez que Anna, quand elle étudie encore le violon, faisait jusqu'à 10 à 12 heures de violon par jour? La raison pour laquelle les personnes qui sont musiciens professionnels et qui travaillent dans un orchestre symphonique sont engagés dans un tel métier n'est pas seulement parce qu'ils ont choisi une voie de carrière arrivant en terminale en se disant « Oh, ça serait bien que je fasse un musicien professionnel ». Pas du tout. Ce sont des personnes qui ont une passion et cette passion les amène à s'engager de la sorte. Donc c'est pas une simple règle qui va te conduire à vivre le commandement missionnaire. C'est pas un simple commandement froid, mais c'est la conséquence d'un cœur qui est rempli de reconnaissance envers Dieu, qui est saturé, en quelque sorte, par l'envie de manifester sa gloire, un petit peu comme une éponge que tu viens de passer sur la paillasse, tu vois. À un moment donné, elle est tellement gorgée d'eau que tu dois l'essorer quelque part, quoi. Et c'est un peu ça, en fait. T'es tellement imbibé de la présence de Dieu, il a tellement fait pour toi que la seule chose que t'as envie de faire, c'est de dire aux gens, quoi. Et Dieu te dit, ok, tu vas le dire de cette manière-là. Donc c'est plus qu'un commandement, c'est plus qu'une simple règle, c'est plus que simplement un principe sur lequel on doit se baser pour obéir. Il s'agit d'un sentiment de reconnaissance envers Dieu, de l'envie de manifester sa gloire et de la manière dont tu as de trembler d'amour pour les perdus. Tu veux voir le nom de ton Sauveur manifesté parmi toutes les nations. C'est la première chose. C'est pas un commandement, c'est une passion. La deuxième chose, c'est qu'elle ne peut pas défaillir. Et nous partons avec l'assurance que toute autorité, tout pouvoir a été donné dans le ciel à celui qui nous envoie. Et nous ne partons pas juste simplement pour se dire, bah écoute, on va parler, et puis si notre stratégie est bonne, peut-être que les gens vont se convertir. Non, on y va avec l'assurance que lui nous a précédés, qu'il a prié, qu'il nous a envoyés, et qu'il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et que dans certains sens, la seule responsabilité que nous avons, c'est de semer. Elle ne peut pas défaillir. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Notez qu'il n'est pas dit « elle pourrait bien être prêchée » ou « elle pourrait bien être annoncée » ou « ça pourrait bien marcher ». Il est marqué « elle sera prêchée ». C'est une assurance de réussite. Nous sommes envoyés avec l'assurance que les choses vont se produire comme Dieu l'a décrété et déterminé. Si vous prenez des taux, comme par exemple le taux de réussite au bac, vous avez des écoles qui s'enorgueillissent de leurs excellents résultats, avec parfois quelques phénomènes de jeter carte des gens qui sont pas très bons avant la terminale, tu vois, comme ça, j'ai un taux de 99%. Mais il y a des écoles qui s'enorgueillissent du taux de réussite au bac, mais le taux de réussite le plus sûr que vous puissiez trouver sur cette terre, c'est le taux d'accomplissement de ce qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui sortira de la bouche de Dieu va s'accomplir. C'est une parole certaine qu'elle s'accomplira, la parole du prophète qui a prophétisé contre l'autel de Bethel. Et vous le retrouvez 400 ans après, quand le roi Josias vient déterrer tous les os de ceux qui s'étaient prosternés devant les autels qui avaient été institués par le roi Jéroboam, en 1 roi 13. Et vous les voyez, ces gens-là, déterrés, leurs os sont sortis de terre, ils sont exposés, c'était une malédiction en quelque sorte, hein. Mais les os du prophète ont été honorés parce qu'elle s'est accomplie, la parole de l'Éternel. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. La grande mission va s'accomplir. elle va aboutir.
À un moment donné, ce que Christ a décrété, ça va se faire quand Dieu parle, ça a valeur de fait. Car il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Quand Dieu parle, ça se produit. Mais la grande question, en fait, c'est est-ce que ça sera avec toi ou est-ce que ça sera sans toi? Est-ce que ça sera avec ton Église ou est-ce que tu resteras sur le côté du chemin en regardant les gens agir comme on regarde un match de foot assis dans le canapé avec une bière et une pizza? Elle ne peut pas défaillir. Dieu n'a pas besoin de toi. Laisse-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais un appartement à Montreuil et je voulais le vendre. Vous savez, quand on vend un appartement, on inscrit un prix et généralement, vous vous préparez à négocier. Arrive une dame, une ancienne, qui visite mon appartement. Elle le trouve très joli, très bien. Elle me dit, oh ben, je le prends. Vous le prenez? Oui, 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 je le prends. Vous le prenez? Oui, oui, je le prends. Bon, bah, écoutez, si vous le prenez, je me dis, mais elle négocie même pas, mais elle me fait le dessus du marché, quoi. Bah, écoutez, très bien, j'appelle le notaire, je connaissais un notaire, on l'appelle, on a rendez-vous pour la promesse de vente, et on va pour signer le compromis de vente, etc. Et j'ai rendez-vous deux semaines après. Au moment de signer la promesse de vente, j'arrive sur place. Et avant d'arriver sur place, j'invite un ami. Et je lui dis, écoute, je suis trop content, je viens de faire une superbe affaire, et franchement, je vais t'inviter au restaurant pour faire tout ça. Alors on va manger au restaurant, et je l'invite dans un bon restaurant, et je paye à manger, et j'étais en train de dire à Dieu tout joyeux, tu vois, tu viens de me faire faire une super affaire, Dieu, et j'aimerais te dire aujourd'hui devant toi, je m'engage à te donner telle somme, une grosse somme, tu vois. Genre, le truc que j'espérais pas avoir, tu vois, la négociation, quoi. J'arrive chez le notaire, je crois que j'ai attendu toute l'après-midi avec Jésus. J'étais furieux. Je suis sorti, et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et j'ai crié à Dieu, et je lui ai dit, tu te rends pas compte, Seigneur, j'avais dit que j'allais te donner telle somme, c'est abusé, quoi. Et là, passe instantanément dans le cœur, et j'ai eu, c'est comme une réponse qui m'a dit, mais j'ai pas besoin de ton argent, moi. J'ai pas besoin de ton argent, quelle bonne leçon, j'ai pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de nous, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mes amis, la mission va s'accomplir, elle ne peut pas défaillir. Est-ce que ça sera avec toi ou sans toi? C'est juste une grâce que de participer à l'action missionnaire avec Jésus-Christ. C'est pas, ouais j'ai besoin de toi pour finir cette tâche, non. C'est, viens. Je te prends avec moi parce que je t'aime. Est-ce que vous voulez aimer en retour votre Sauveur en proclamant son nom jusqu'aux extrémités de la terre? Troisième considération. Tous les disciples de Christ sont concernés par cette mission. Je me souviens, j'étais à l'IBG il y a 2 ans, je crois, on était avec Raph, et il y avait un jeune qui était là, qui soutenait, ça m'avait choqué à l'époque, que le commandement missionnaire n'était pas pour tous les chrétiens, mais seulement pour les apôtres. Bingo, depuis j'ai entendu cette version des faits à peu près une bonne dizaine de fois, y compris par des pasteurs respectés ici en Île-de-France, qui pensent que le commandement missionnaire s'adresse uniquement aux apôtres et n'est pas donné à l'Église. Il y a un principe qu'on appelle l'altérité, qu'on retrouve dans Matthieu 28, verset 18-20, le texte que nous avons récité tout à l'heure, qui est un principe de transmission de la mission en fait. En fait, le commandement missionnaire a valeur d'obéissance au commandement missionnaire. Je m'explique. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien sûr, il le dit aux apôtres. Pas seulement, je pense personnellement que les 500 étaient avec lui. Mais ça, c'est une autre histoire, on va pas en parler aujourd'hui. Mais il lui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vient de leur prescrire? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc si tu veux enseigner tout ce que tu viens de recevoir, monsieur l'apôtre, tu vas devoir enseigner que eux aussi doivent faire de toutes les nations des disciples, qui vont faire de toutes les nations des disciples, qui vont faire de toutes les nations des disciples, et si on avait obéi au commandement missionnaire, ça y est, le Seigneur Jésus serait revenu, parce que cette bonne nouvelle du royaume aurait déjà été prêchée à toutes les nations, le temps serait accompli, il y aurait des gens sauvés dans chaque peuple de toutes les nations de toute la terre, et ça y est, ça serait fini, et on serait pas en train de galérer avec notre péché et nos tentations. Et on serait réunis avec Christ
pour vivre ce jour glorieux que nous attendons, qui s'appelle la réunion avec lui, où enfin on arrêtera de pleurer et d'être dans le deuil parce que nous voyons les gens autour de nous nous quitter, nous voyons nos défaillances, nous voyons les défaillances des autres, nous avons des querelles, des conflits, nous sommes amenés à plier le genou devant lui, à nous repentir régulièrement, parce que ce que nous vivons, nous n'en sommes pas satisfaits, et heureusement que nous n'en sommes pas satisfaits, parce que ce monde n'est pas notre demeure à laquelle nous avons été appelés. Le commandement missionnaire est pour tous les disciples de Christ. Chaque disciple est appelé à faire d'autres disciples jusqu'à ce que le Seigneur la convienne. L'Église tout entière est appelée à s'engager dans la mission. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à monter sur un tabouret et à prêcher en plein air dans la rue comme Manuel Brumbilla. Êtes-vous une bonne personne ? On n'est pas tous appelés à faire ça. Mais on a tous un rôle à jouer dans la perspective du témoignage, dans la perspective de l'évangélisation. Car même si le mot « évangéliser » se retrouve pas partout dans les épîtres de Paul, comme on en discutait l'autre jour, elles sont complètement traversées par cette pensée que l'évangélisation est le but de l'Église. Et on en verra quelques mots dans les prochains jours. Quatrième considération, on va s'arrêter sur le mot « nation ». Le mot « nation » a comme terme original en grec « ethnos », qui a donné en français le mot « ethnie », « groupe ethnique ». Ça désigne un peuple. Je pense que la meilleure adaptation qu'on peut faire avec nos connaissances modernes sociologiques, missiologiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe de peuple. Un groupe de peuple est parfois défini par son appartenance ethnique, parfois défini par sa langue. C'est très difficile de définir avec précision un groupe de peuple. Il y a des statistiques qui sont assez divergentes sur le sujet. Je vais vous en citer deux ou trois. Par exemple, celle de Joshua Project, qui estime qu'il y a à peu près 16 800 groupes de peuples dans le monde. 16 800. On estime, selon certaines études, qu'il y aurait des 12 000 langues pour ces 16 000 groupes de peuples. Nous, à Audiovie GRN, on considère qu'il y en a 10 000 plus. Bref, peu importe, c'est très difficile à estimer. Essayez de penser qu'il y a 16 500, 17 000 groupes de peuples dans le monde. Un groupe de peuples n'est pas limité par une frontière terrestre. Aujourd'hui, quand on pense nation, on pense par exemple à Chine. Mais en Chine, vous avez plusieurs groupes de peuples. Par exemple, vous avez les Han, mais vous avez aussi les Wen. La manière de différencier les Han des Wen, c'est que les Han sont toujours à l'heure, les Wen sont toujours en retard. Alex Lopez est un Wen espagnol. Mais si vous voulez, dans la perspective des groupes de peuples, on ne s'arrête pas à des frontières physiques uniquement, on regarde plusieurs autres critères comme l'appartenance ethnique et la langue et toutes sortes de choses semblables. Maintenant, certains organismes cherchent à définir le niveau de pénétration de l'évangile dans ces groupes de peuples. Et généralement, les statistiques qui sont retenues sont qu'un groupe est considéré comme non atteint par le message de l'évangile quand il y a moins de 2% d'évangéliques au milieu d'eux. Moins de 2% d'évangéliques au milieu d'eux, c'est un groupe et un peuple non atteint. Un groupe non engagé, c'est un groupe dans lequel il n'y a pas de traduction de la Bible, pas d'église qui puisse faire le témoignage de proximité, pas de missionnaire ou de personne qui travaille parmi eux. Sur ces 16 700 groupes de peuples que je viens de vous mentionner, plus de 41% d'entre eux sont non atteints. 21% sont non engagés. Si tant est qu'on ait bien défini la notion de groupe de peuple, ce qui n'est pas assuré. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que 20 siècles après la venue de Jésus dans le monde, on en est à peine à la moitié de l'atteinte de l'objectif missionnaire de voir cette bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée à tous les peuples, toutes les nations, pour leur servir de témoignage. C'est dramatique. Vous avez des groupes de peuples au milieu desquels vous n'avez pas de chrétiens. Récemment, on a vu un Soninké se convertir à Montreuil. Les Soninké sont au minimum 2 millions de locuteurs dans le monde. Ils ont très peu de textes bibliques. De toute façon, ils ne savent pas le lire. Il n'y a pas d'église au milieu d'eux, à ma connaissance. Ils sont une trentaine de convertis dans le monde. C'est un peuple non atteint. Est-ce que vous savez qu'au milieu de certains peuples, comme les Taïkmani d'Afghanistan et du Pakistan, vous avez une occasion tous les 30 ans d'entendre l'Évangile? Vous vous rendez compte, s'il y a un gars qui l'entend deux fois en 30 ans, il a pris la place d'un autre. Est-ce que vous vous rendez compte que dans certaines régions de la Terre, l'opportunité d'entendre le message de Christ est tout simplement réduite à néant à cause d'une perspective missionnaire que nous n'accomplissons pas. Nous avons besoin de nous souvenir que la tâche à laquelle nous sommes appelés de près ou de loin est d'accomplir le grand commandement auquel nous avons été tous appelés. Les anglo-saxons disent son dernier commandement, notre première priorité. C'est normal. Il l'a donné juste après être ressuscité et il l'a reconfirmé juste avant d'être enlevé devant les yeux de ses disciples. C'est la mission qu'il a donnée à l'Église. Cinquième considération. Une petite mise au point concernant les églises francophones et la mission. J'aimerais vraiment vous dire que le ministère local est absolument essentiel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez combien je suis attaché au concept d'église locale. Pour moi, tout part de l'église locale. Tout, absolument tout ce qu'on fait, que ce soit le commandement missionnaire, l'implantation d'églises, l'enseignement des personnes, la croissance du discipulat, tout est attaché à l'église locale et non pas à une structure missionnaire qui serait rattachée autour d'elle. Toutes les structures missionnaires devraient rendre à l'église locale le statut qu'elle a de facto, à savoir le caractère central du plan de rédemption de Dieu qui se passe au travers d'une structure locale qui s'appelle l'Église. Donc le ministère local est absolument essentiel. Mais en même temps, la mission mondiale est dramatiquement négligée. Je vais vous parler du Yémen. Au Yémen, vous avez deux groupes de peuples. Le Yéménite du Nord et le Yéménite du Sud. C'est pas très compliqué. Est-ce que vous savez, au milieu des Yéménites du Sud, qui sont 8 millions de personnes, combien est-ce qu'il y a de convertis connus, à votre avis? Allez, donnez-moi un petit chiffre. 8 millions de Yéménites du Sud. Combien de convertis, à ton avis, ou à votre avis? 1 million? 1000? Allez-y. 500? Une dizaine? Qui a dit ça? 3 dizaines. À notre connaissance, il y a 30 convertis au milieu des Yéménites du Sud, un grand peuple de 8 millions de personnes au milieu duquel Al-Qaïda a un terreau incroyablement fertile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, le ministère local est absolument essentiel. Oui, dans le même temps, la mission mondiale est dramatiquement négligée. Oui, nos priorités aujourd'hui en France se fixent sur l'absence de pasteurs. C'est clair, on a besoin de pasteurs. Il y a une génération qui s'en va, on n'a personne pour les remplacer. Et dans le même temps, la mission mondiale est complètement négligée. Et quand on regarde ce qui se passe dans nos églises en France, vous avez d'un côté un phénomène d'enseignement qui est, on va se parler franchement, qui est un peu light. Et dans le même temps, vous avez une mission qui est complètement négligée. Il y a des églises où on ne prêche plus sur Matthieu 28, verset 18-20. Vous avez des structures locales sur lesquelles on oublie complètement qu'on est au milieu d'un monde dans lequel on a une mission à accomplir. Par conséquent, il y a une dimension où localement on doit se souvenir que cette mission à laquelle nous avons été appelés, nous devons d'une manière ou d'une autre nous y impliquer, non seulement parce que nous y sommes appelés, mais aussi parce que c'est le moyen de vivre notre passion parfaite que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Vous voulez vivre une union avec Christ? Vivez le commandement missionnaire. Vous voulez lutter efficacement contre vos tentations? Témoignez. Vous voulez vous battre contre vous-même? Mais allez dans la rue et proclamez le message de l'Évangile. Il n'y a rien de mieux pour votre orgueil que de vous prendre un gros vent en porte-à-porte. C'est extraordinaire comment la mission est un levier de croissance pour votre vie chrétienne personnelle. C'est extraordinaire de voir combien le témoignage fait grandir les personnes. Une des premières choses que nous devrions faire en tant que groupe, en tant qu'église, c'est nous encourager au témoignage. La première session que nous plaçons toujours en first, quand on commence avec T40, c'est toujours et systématiquement ce à quoi vous avez été appelé, ce qui est votre mission. Vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est une puissance pour le témoignage. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour aller manger une glace. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour aller vous faire bronzer à Miami Beach. Vous avez reçu le Saint-Esprit parce que c'est une puissance pour le témoignage. Voilà pourquoi vous êtes chrétien. Voilà votre raison d'être sur cette terre. Voilà votre raison de vivre. Adorez Dieu en proclamant ses vertus jusqu'aux extrémités de la terre. Sixième et dernière considération. Oui, le ministère local est important. Et comment, dès lors, ne pas tomber dans le travers de négliger le ministère local si nous cherchons à nous engager dans la mission d'une manière qui soit, totale, qui soit exponentielle, c'est-à-dire que votre engagement missionnaire devrait grandir. Eh bien, en fait, le Seigneur nous a envoyé les extrémités de la terre à deux pas de notre porte. Et la perspective qui est vraiment formidable, c'est de voir que, dans un certain sens, nous n'avons plus besoin d'aller en Afghanistan pour évangéliser des Afghans. Vous allez à Sangat, et vous avez toutes les composantes de la mosaïque culturelle d'Afghanistan, de la mosaïque ethnique, qui sont présentes. Vous allez dans la forêt, vous allez les voir vivre dans des conditions effroyables, et vous pourrez aller à leur rencontre et leur prêcher l'évangile, chose que vous auriez bien du mal à faire dans leur pays. Vous voulez prêcher l'évangile à des gens qui sortent de Somalie? La dernière fois, on a fait une conférence à Masséna. À la fin de la conférence, il y a un homme qui est venu me voir, il était somalien. C'est la première fois que je parlais à un somalien où je voulais prêcher l'évangile. Un des peuples les moins atteints de la planète, un des peuples au milieu desquels la croissance de l'évangile est la plus grande en pourcentage. Est-ce que vous savez les deux pays dans lesquels la croissance de l'évangile est la plus rapide? Non. Je parle en pourcentage, pas en valeur.
Je vois, ça va pas passer, vous êtes un milliard, c'est pas combien.
La France.
Non. Là? Non. La Somalie, oui, ben, je viens de le dire, c'est trop facile. L'Europe du Nord, on ne sait pas. Le Nigeria, c'est pas loin. Le Congo? Ça dépend ce que tu appelles l'évangile. La Corée du Nord? Non, on ne sait pas, on n'a pas de stats. La Corée du Sud, ils sont déjà tous chrétiens là-dedans. En plus, ils baptisent des enfants, ils sont presbytériens, donc ils sont tous chrétiens. La Somalie et l'Iran. Les Farsis sont le groupe de peuples au milieu duquel il y a la plus forte croissance en pourcentage de l'évangile. Et je vais vous dire mieux que ça. C'est les pentecôtistes qui croissent le plus. Et manifestement, ça s'est fait d'une manière exponentielle, sans avoir beaucoup l'aide de missionnaires étrangers. Il y a eu des histoires de songes et de visions, ça c'est une chose. Mais vous savez comment l'évangile l'ont reçu majoritairement? À cause des travailleurs étrangers arméniens qui viennent en Iran avec leurs spécificités, qui sont tolérés parce qu'ils sont un allié de l'Iran. Et mon ami Joël Racine est parti là-bas il n'y a pas longtemps. Et il m'a dit, les Arméniens se baladent avec des voitures avec marqué derrière « Jesus loves you » à fond, en gros, des bandeaux en pleine république, en pleine, comment on appelle ça, une république, l'Iran, en pleine... République islamique d'Iran, c'est ça? Ouais. En pleine République islamique d'Iran, ils se baladent avec des bandeaux Jesus loves you derrière leur bagnole, les mecs. Donc, c'est extraordinaire. Vous voyez? Des missionnaires? Non, ils sont juste venus travailler. Ils ont apporté dans ce pays un évangile qui a semé une graine. C'est une graine qu'ils ont semée qui a eu une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on pense qu'en l'espace de 10 ans, ils sont passés d'une quarantaine de chrétiens connus à plus de 300 000. Une croissance exponentielle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous-même, vous pouvez avoir un tel impact jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons baptisé à Montreuil 4 Bambara. Ceux qui étaient là lors du baptême ont pu voir cela, sinon j'ai une vidéo que je pourrais vous faire tourner plus tard. Mais on les a baptisés et on était très contents de les baptiser parce qu'on sait que ça va avoir un impact jusqu'au Mali. Une des premières choses que Sekou il a fait quand il a fait sa profession de foi, il a passé un coup de fil à sa femme et il lui a prêché le message de l'évangile. Ils ont tous appelé au pays, ils ont tous pris Skype et ils ont parlé de l'évangile à tous leurs proches. Vous pouvez avoir un impact missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre depuis chez vous. Essayez de vous rendre compte. Ça fait 20 siècles qu'il nous a donné une grande mission de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est comme s'il avait déchiré les cieux et il nous disait « Hé les gars, hé les filles, ça fait 20 siècles que vous avez reçu cette mission et c'est toujours pas terminé. Mais attendez, mais vous faites quoi là? Vous voulez pas me voir ou quoi ?» Alors je vais ramener les extrémités de la terre jusqu'à chez vous. Et vous n'aurez plus qu'à leur témoigner du message. Et c'est pas seulement à Montreuil, c'est aussi à Liège. On était à Liège il n'y a pas longtemps, on a rencontré des Azéris, on a rencontré des gens qui sont des Peuls, on a rencontré des gens qui viennent du Turkménistan. On était vraiment frappés des différentes personnes qu'on a rencontrées dans la banlieue de Liège. Et ici, à Saint-Maur, quel type de groupe de peuple allons-nous rencontrer? Donc, les extrémités de la terre sont à deux pas de notre porte. Nous sommes doublement plus favorisés pour pouvoir nous investir dans cette grande mission. J'aimerais conclure. Cette mission est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est notre devoir pour glorifier Dieu. C'est aussi notre devoir pour être heureux. Deutéronome 4, 40 nous dit « Tu observeras les prescriptions et les commandements de Dieu, ceux que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Quand Dieu nous donne une prescription, quand Dieu nous donne un commandement, c'est pas juste pour nous obliger et nous contraindre, c'est simplement parce qu'il veut réellement que nous soyons parfaitement heureux. Le but de Dieu, lorsqu'il nous donne un commandement, et à combien plus forte raison ce commandement missionnaire par lequel nous sommes conduits et animés par les mêmes passions pour obéir à ce commandement, le but de Dieu est de nous rendre parfaitement heureux. Vous voulez vivre heureux sur cette terre? Vous voulez triompher de la tristesse et de l'amertume dans votre cœur? C'est bon. Mes amis, je vais pas vous mentir, je viens cette semaine, je suis complètement en vrac dans ma vie spirituelle, personnelle. Je vais pas vous raconter d'histoire. Hein. Je suis pas venu vous faire un cinéma et un sketch de « ça y est, c'est Guigui qui est là ». Non, non, ça va pas du tout. Mais je suis content de venir partager l'évangile avec vous parce que je sais que je vais terminer la semaine reboosté. Pourquoi? À cause de la parole de la proclamation. Vivre nous-mêmes ce commandement pour être heureux. Encourager les autres croyants à vivre ce commandement pour être heureux. Je n'ai pas de plus grand plaisir que quand je vois les jeunes et les moins jeunes s'engager dans la grande tâche à laquelle ils ont été appelés en Jésus-Christ. Encouragez vos églises, encouragez vos amis, encouragez-vous vous-même et dites-leur, viens avec moi, viens être heureux dans l'obéissance à la parole. Oui. Seigneur, merci pour... La tâche à laquelle tu veux nous associer, c'est pas pour nous prendre dans une entreprise dont tu serais le chef et tu nous tyranniserais, rien à voir, Seigneur. Tu nous prends comme ouvriers avec toi et tu nous prends parce que tu nous aimes dans cette grande tâche que tu te proposes d'accomplir, pour laquelle tu n'as pas besoin de nous, mais pourtant tu nous prends avec toi. Merci, Seigneur, parce que c'est un grand privilège et une grande grâce de savoir qu'on peut travailler à tes côtés. Merci parce qu'on sait que tu nous as précédés. Merci parce qu'on n'a pas à craindre, qu'on n'a pas à avoir peur des conséquences de tout cela. Merci parce que tu es bon et que ta miséricorde durera toujours. Et nous te prions pour que cette semaine, nous puissions à la fois expérimenter ton secours dans les difficultés, mais aussi des encouragements de voir des personnes interpellées par ton message. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions grandir à mesure que nous partagerons l'Évangile. Et nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour que cette semaine, nous puissions voir des conversions. Nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas peur de te prier pour cela. Nous savons que tu as la puissance d'amener des personnes à plier le genou devant toi. Et nous te prions pour que l'Église ici puisse croître numériquement, mais aussi qualitativement dans la joie que l'on peut avoir à partager ce commandement missionnaire et ce jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.